Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Il faut s'offrir cette liberté-là, de se dire, bah attends, je le fais, je tente. Je mets tout en œuvre pour y aller, et pas toujours se trouver des raisons de pas y aller. Je vais le faire demain, j'attends d'avoir un peu plus d'argent, j'attends d'avoir une meilleure formation, non mais en fait c'est bouché. En fait, parce que j'entends parfois des gens qui me disent, ah j'aimerais bien, je voudrais me reconvertir, mais. Et en fait, au moins essayer. Ça veut pas dire qu'on va y arriver, mais au moins essayer, quoi.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je me rends dans le studio de Lou Sarda, ancienne actrice et photographe portraitiste. C'est suite à un tournage à Tokyo qu'elle se met à la photo. Ce voyage a été un vrai choc visuel et esthétique. Elle se met alors à photographier les acteurs, les chanteurs, les artistes et plus particulièrement les femmes. Elle change de nom aussi, en laissant son nom d'actrice Églantine Ramboville pour un pseudonyme Lou Sarda. Avec Lou, on parle de s'offrir une nouvelle chance, de la passion de la photo et du deuil qu'on n'ose pas faire parfois en laissant sa vie d'avant. C'est beau, passionnant et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Lou devant ses modèles.
Bonjour Lou et
bonjour.
Bienvenue sur le podcast.
Ben merci.
Je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie que tu puisses partager ton parcours. Mais peut-être avant toute chose, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter en quelques mots? Parce que effectivement, je ne sais même pas si on peut t'appeler Lou ou un autre prénom.
C'est-à-dire que quand on parle de photos, de toute cette partie-là de ma vie, on m'appelle Lou, quoi. Mais sinon, on peut m'appeler par mon autre prénom, qui est en fait mon vrai prénom, ouais. Mon prénom de naissance, qui est Églantine. Et puis, les gens, en fonction, m'appellent Oulou ou Églantine. Mais c'est assez marrant parce que des gens très proches de moi, qui me connaissent depuis toujours, donc qui m'ont vu devenir Lou, on va dire, m'appellent parfois Lou. Et puis, inversement, d'autres qui m'ont appelé Lou et qui connaissent mon vrai prénom m'appellent Églantine. Donc, en fait...
Oui, bah parce qu'on va en parler plus tard, mais effectivement, toi, tu as changé de prénom en même temps que ta bascule.
Ouais. En fait, c'est même ça qui a déterminé vraiment cette renaissance, quoi. Ça l'a vraiment inscrite de façon très profonde. Parce que c'est changer d'identité, c'est changer de peau, quoi.
Et du coup, si on revient sur ton parcours, donc toi, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais ?
Avant, j'étais comédienne pendant... une bonne douzaine d'années. Bon, c'est encore un peu comme ça dans ma vie, mais disons que c'était très intense pendant 12 ans. Et puis, maintenant, je suis photographe.
Quand tu étais comédienne, quand tu as commencé en tout cas ta carrière de comédienne, tu savais déjà que c'était un peu quelque chose à durée déterminée ou alors le le process est venu un peu naturellement, d'un moment, tu as eu envie de faire autre chose?
Non, j'étais vraiment partie pour que ce soit ça ma vie et j'imaginais même pas que ce soit possible de faire autre chose, en fait. J'ai su très tôt que je voulais être comédienne. Enfin, j'avais 10 ans quoi, quand j'ai voulu... quand c'était assez fort en moi. Et après, j'imaginais même pas avoir un autre parcours. Donc, toute mon énergie, toute ma vie était consacrée à ça. Et puis, je voulais avoir une palme d'or, un César. Voilà, j'avais très envie d'une carrière. J'ai commencé à 20 ans et j'ai quasiment arrêté à 30. Voilà. Après, c'est revenu un peu épisodiquement parce que j'avais toujours mon agent et puis il y avait des petites choses comme ça, mais ce n'était pas aussi intense que ça l'a été pendant vraiment 10 ans où j'ai beaucoup travaillé. Je vivais très bien de ça, d'ailleurs. C'est vraiment une période de ma vie que j'ai adorée quand même. Hein. Même si j'ai décidé de m'en extraire, j'ai vraiment aimé, quoi.
Et du coup, j'allais dire, comment est née en tout cas les premières petites étincelles de...
De photos ?
Ouais, de photos et de, effectivement, peut-être qu'autre chose me correspondrait mieux.
En fait, je crois que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours aimé faire de la photo, mais sans... Juste comme ça, comme des gens qui aiment faire de la photo. Mais depuis que je suis petite, parce que j'ai retrouvé des tonnes de photos que j'avais faites enfant, je faisais des séances de mode avec des copines, on passait l'après-midi. Donc c'était déjà mon jeu, quoi. Je jouais à être photographe. Et puis ça a toujours été dans ma vie parce que mon père fait beaucoup de photos, mon grand-père faisait beaucoup de photos, donc c'était quelque chose qui était très banal, quoi. Et sur les tournages où j'allais, je prenais une caméra ou un appareil photo et je faisais le making-of des tournages. Donc, ça a grandi, mais il y a vraiment eu... l'étincelle, c'était un voyage à Tokyo où je suis partie en tant qu'actrice pour tourner un film là-bas. Et j'avais envie de faire des photos encore plus que d'habitude et faire des films encore plus que d'habitude parce que tout était tellement nouveau, exotique, un peu fou. Enfin, je sais pas, c'était... Je crois que j'ai rarement eu une expérience à l'étranger aussi forte que celle au Japon. Et en rentrant, j'ai eu envie de changer de métier, quoi. J'ai eu comme une révélation. Et c'était immédiat, en fait. Mais je me dis que si c'était aussi fort, aussi soudain, c'est peut-être qu'il y avait ce truc qui a grandi, en fait, tu vois, qui s'était installé, qui a toujours été un peu latent. Il a suffi de... Je sais pas. D'un choc culturel, visuel, esthétique qui m'a traversée pendant ce voyage. Et après, c'était obsessionnel. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours obsessionnel, mais...
Tu veux dire, la photo, c'était un besoin.
Obsessionnel.
Ouais.
C'était vital, viscéral. C'est beaucoup plus fort que la comédie. J'y pensais tout le temps. Enfin, ça m'habitait tout le temps.
Et tu t'étais formée là-dessus ou non? C'était complètement autodidacte?
Non, je suis complètement autodidacte parce que déjà, j'arrive pas vraiment... je suis pas très bonne élève. J'arrive pas à apprendre dans des livres. J'arrive pas très bien à suivre des cours. C'est pas... j'ai besoin de faire, en fait. J'ai besoin de découvrir toute seule et de faire toute seule et de faire ma méthode. Et d'ailleurs, je suis pas très technicienne parce que j'y arrive pas. J'aimerais bien, hein, j'adorerais être une bête de la technique parce que je suis sûre que ça apporte beaucoup de choses aussi, mais j'y arrive pas. Et en fait, j'avais quand même essayé je m'étais renseignée pour faire une formation AFDAS parce que les intermittents du spectacle ont la chance de pouvoir faire des formations et des reconversions. Je m'étais renseignée pour faire cette formation, j'avais préparé tout un dossier et tout ça. Et en fait, j'ai eu une sorte de conseillère de formation qui m'a dit « Moi, je serai vous, je ferai pas de formation. » Il y avait une possibilité de rentrer à l'école des Gobelins. Mais bon, il fallait monter tout un dossier, c'était pas... Et quand elle a vu mon parcours, quand elle a vu mes images, elle m'a dit... ça m'arrangeait, hein. J'ai pas pris 40 000 conseils par rapport à ça, mais elle m'a dit, allez-y. Elle dit, par rapport à tout ce que vous avez fait en tant qu'actrice, modèle aussi, vous avez déjà été sur des séances, des shootings, des tournages, vous avez déjà un œil... je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Et j'ai eu une amie photographe aussi qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit franchement, le fais pas. Donc moi, je dis, ok, ça m'arrange un petit peu. de pas retourner à l'école. Et puis après, je faisais ça toute la journée, quoi. Je faisais des photos toute la journée et tous les soirs. Bon, j'avais pas encore d'enfant, donc j'avais vraiment le temps. Et le soir, j'apprenais sur les logiciels. En fait, j'étais tellement passionnée que j'ai fait ma formation toute seule.
En fait, c'est ça, c'est la pratique au quotidien. Fait, ça valait bien plus que...
Mais c'était... Je le faisais tout le temps. C'était vraiment comme une addiction.
Et j'allais dire, donc ça, tu le faisais déjà un peu pendant les tournages, tu disais?
Pendant les tournages, je faisais des photos et des films, mais vraiment, je les ai même jamais vus, en fait. Je les ai jamais regardés. Donc, j'ai des tonnes de cassettes.
Ah ouais?
Je pense que ça me ferait bizarre de... Il faudrait quand même que je les sorte.
Et après, du coup, le truc a grandi. Et donc, après ce voyage au Japon, c'est là où tu t'es vraiment posé la question de est-ce que vraiment je ne ferais pas mon métier?
En fait, il y avait aussi une lassitude du métier de comédien où j'étais frustrée. J'étais pas là où je voulais être.
Et ça, c'est marrant parce que pourtant, c'est un métier de prime abord où tu ne dirais pas « Ah, ça a l'air d'être lassant », tu vois.
Non, j'étais lassée de pas arriver à... J'étais frustrée, en fait, plus que...
Ah, dans les rôles que t'avais...
J'étais lassée du système, en fait. D'accord. Tu vois, et je voulais plus. Je voulais plus grand, je voulais... Enfin, ce que j'estimais être plus grand, parce qu'en fait, c'était un peu un égo trip, tout ça, quoi. Donc, j'étais frustrée et j'étais fâchée, quoi. Donc, j'ai un peu dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. c'est arrivé à un bon moment dans ma vie, en fait. C'est comme, de toute façon, j'avais cette espèce de colère quand même contre le métier d'actrice et puis le système. J'avais quand même la chance de travailler pas mal. Je faisais beaucoup de téléfilms, de séries, un tout petit peu de longs-métrages, mais les longs-métrages, je les ai faits surtout à l'étranger. Et j'étais lassée de passer 5 fois, 10 fois le même casting pour qu'après, on me dise qu'ils ont pris machin parce que... elle est bankable ou... ça m'était tellement arrivé que, en fait, j'arrivais pas à être tranquille avec ça. J'ai pas réussi à me dire « Ah bon, c'est comme ça que ça fonctionne. » Non, j'étais fâchée, j'étais pas contente. Et puis, après, peut-être qu'il y a eu une concordance de choses. J'arrivais aussi à un âge où... Enfin, pourtant, j'avais juste 30 ans, finalement. Je me dis c'est jeune, mais peut-être qu'il était moins facile, peut-être entre deux âges, j'en sais rien. Il y a eu une... Toute une espèce de petite alchimie qui a fait que c'était le moment peut-être de changer, de faire autre chose. Et puis, en fait, je crois aussi que la découverte de pouvoir faire autre chose et qu'il y ait quelque chose qui me plaise autant et que j'arrivais à faire, ça m'a plu. C'est-à-dire que comme je m'étais branchée sur une carrière d'actrice, ce serait ça ma vie, tout d'un coup d'avoir... et puis, quelque chose où je pouvais contrôler, j'étais maître. Ouais, quand t'es acteur... T'es pas c'est bizarre parce que tu pourrais te dire t'es dans l'action, c'est toi qui mais ce qui est vrai, mais c'est finalement pas toi qui tire les ficelles. On est justement la petite marionnette
t'es un peu tributaire
des
goûts de
tout et tout le monde, d'un directeur de casting qui va vouloir te rencontrer, d'un réalisateur qui va te choisir, d'une chaîne de télévision ou d'un producteur qui va valider, Et puis, je veux dire, il y a tellement de gens d'abord qui doivent décider si oui ou non. Tu peux faire ce rôle-là. Et après, tu es aussi un peu englouti par un projet, que ce soit au théâtre ou au cinéma, parce qu'il y a une vision d'un costumier ou d'une costumière, d'un maquilleur, d'une maquilleuse. Et ça, c'est super. Moi, j'adore ce truc d'équipe, d'ailleurs. Mais finalement, ce qui me plaisait tout d'un coup dans la photo, c'était de raconter mes propres histoires. Je choisissais mes lieux, mes personnages, mes costumes. Et c'était moi qui menais la danse, quoi. Et cette découverte-là, elle était vraiment tellement jouissive que j'en avais rien à faire, en tout cas à cette époque-là, de ne plus faire de casting et de dire « puisque c'est comme ça, je fous ça. »
Ouais, je comprends. Mais du coup, ça veut dire que... Est-ce que tu as une crainte au début quand tu te dis... En fait, ou alors, est-ce que c'est tellement vraiment ancré en toi de toute façon, il faut vraiment que je fasse de la photo, ou tu as quand même un peu ce truc vertigineux de... OK, je suis en train de quitter un monde.
C'était vertigineux. Et puis surtout, je me suis dit, si je le quitte, est-ce que je peux revenir?
Oui, c'est ça aussi.
Est-ce que je ne vais pas quand même le regretter? Donc oui, tout ça, ça m'a traversée. D'ailleurs, j'ai rien dit à mon agent de l'époque. Et un jour, il m'a croisée dans la rue et j'étais à Montmartre en train de faire des photos. Et il m'a dit « Ah bah, tu t'improvises photographe ?» Il m'a dit un truc comme ça. Je suis photographe. Parce que j'avais rien dit, j'avais caché ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai changé de nom. C'est que j'avais l'intuition que ça pouvait marcher et j'avais envie de photographier des actrices et des acteurs aussi, parce qu'il y a des acteurs qui me disent « Mais tu photographies aussi des garçons quand même ?» Oui, je photographie aussi des hommes, mais disons que je pense que je m'identifiais aussi plus aux femmes et donc ça m'intéressait de photographier des actrices. Et comme j'avais cette intuition que ça pouvait fonctionner, il fallait que je change de nom. Parce que je me suis dit, sinon, ça va brouiller les pistes. On va se dire, ah, c'est quoi cette actrice ratée qui veut faire de la photo ? Ou c'est pas vraiment une photographe parce qu'en fait, elle est actrice. Enfin, je me suis dit, ça va pas marcher, ce truc-là. Et je m'étais pas rendu compte de l'importance, de l'impact et même de la symbolique du fait de changer de nom, ce que ça pouvait apporter. Maintenant, je mesure, je pense pas à 100%, mais beaucoup plus, en fait, l'importance d'avoir fait ce choix.
Et d'ailleurs, j'allais te dire, est-ce que ça... Enfin, changer de nom, c'est-à-dire que tu l'as fait vraiment dans le cadre un peu professionnel ou ça a un peu vraiment impacté beaucoup plus que ça, ton quotidien ?
Ah, ça a impacté beaucoup plus que ça. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais au début, c'était vraiment Églantine Rambeauville. Donc ça, c'est mon vrai nom. C'est même Églantine Rambeauville-Nicole, donc long. Hein. Ça, c'est mon nom de naissance, que j'aime beaucoup, mais c'est mon nom d'actrice. Voilà. Et du coup, il fallait que mon nom de photographe ce soit Lou Sarda pour vraiment différencier les deux. Donc ça, c'était vraiment l'aspect pro. Après, en fait, d'avoir changé de nom, d'avoir changé d'un peu d'identité, ça me donnait comme une sorte de... Mais un peu comme quand on joue un rôle, en fait. J'avais enfilé le costume de photographe, quoi. Mais je ne me suis pas rendu compte à quel point ça rentrait dans ma chair. Au début, c'était un peu... J'essayais aussi, même si j'y croyais profondément, même si je n'imaginais pas que ça s'arrête un jour. D'ailleurs, je souhaite que ça ne s'arrête jamais, même si je fais une reconversion. Il y aura toujours la photo dans ma vie. Ça, c'est impossible d'imaginer que ça puisse ne plus être. Mais oui, c'est quelque chose d'assez fort, en fait, de changer d'identité. Et je crois que je n'avais pas mesuré l'impact avant que Michel Gondry m'en parle. Alors, ça fait très chic de raconter cette histoire, mais c'est pour ça qu'il faut la raconter, où j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et parce qu'un jour, je reçois un message sur Facebook où il me dit « Salut Lou, ça va ?» Je réponds « Très bien Michel, et toi ?» On ne se connaissait pas du tout. Et en fait, on s'est rencontrés, on a échangé comme ça, puis on s'est rencontrés. Et c'est lui qui m'a posé cette question de l'identité. Pourquoi t'as changé de nom ? T'es devant, t'es derrière, parce que je sais que t'es aussi actrice. Mais, et j'avais jamais mesuré, en fait, l'importance, l'impact que ça avait d'avoir changé de peau à ce point-là. Et ça m'a fait prendre conscience de la symbolique, et, enfin, même au-delà de ça, de ce que ça avait impacté profondément dans ma vie, quoi.
Mais ouais, mais je pense qu'il y a clairement un truc de l'ordre du psychologique, de comme quand tu arrives dans un nouveau pays et que finalement personne te connaît, et tu dis en fait tout est possible.
Ouais,
et du coup, il y a un peu ce truc-là de dire bon, bah, en fait, c'est une nouvelle page blanche. Et je pense qu'en termes de confiance, en termes d'envie et tout, ça change quand même beaucoup de choses.
Ça change beaucoup. Je pense que je ne suis pas allée encore assez loin avec ça. Et je ne me suis pas encore assez amusée. Et justement, à dépasser les limites, à aller encore plus loin, à ce que. Alors, attention, ça fait très schizo, mais à ce que Églantine n'était pas capable de faire ou avait peur de faire, ben, Lou, elle est capable et elle va y aller. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce côté, être un peu chef d'orchestre de sa vie, le fait de tout d'un coup d'avoir changé d'identité, de l'avoir choisi, j'ai choisi ce prénom, j'ai choisi ce nouveau métier et cette nouvelle identité, ça m'a permis peut-être aussi de dépasser certaines craintes et certaines limites que je m'étais imposées.
Ouais, c'est des inhibants, parce que il y a aussi ce truc peut-être de toute façon, si ça fonctionne pas, oui. En fait, c'est pas que t'as pas peur de l'échec
personne
ou du regard,
mais
exactement, tu fermes le truc, bim, personne ne saura jamais qui est Lou, et voilà. Ouais. Alors que si tu fais les choses sous ton propre nom, tu dis, bon, bah, en fait, si je fais un truc que ça marche pas, ça va quand même me coller à la peau et on va savoir que c'est moi.
Ouais, enfin. Mais j'avoue qu'elle a pris presque plus de place, en fait, cette Lou Sarda. Où est-elle ? Parce que il y avait un moment où j'avais même des amis qui me présentaient à des soirées un peu mondaines et tout ça. Elle m'appelait pas Églantine, elle m'appelait Lou. Et elle me présentait comme ça. Elle disait et ça m'a vachement troublée.
Ouais, ça devait être un peu bizarre pour toi aussi.
Je me suis dit pourquoi est-ce que Lou est plus intéressante qu'Églantine ? Pourquoi tu me présentes ? C'était très c'était un peu déroutant, amusant aussi. Hein. Et puis de voir que des gens on suivit ce mouvement en changeant, en fait. C'est-à-dire qu'il ne m'appelait plus Églantine, il m'appelait Lou. Et c'est resté. Bon, il y a eu l'inverse aussi, mais il y a eu beaucoup
ouais,
ça.
C'est marrant.
Et ça, c'était très marrant. Et je me suis dit, il y a eu plein de trucs qui sont passés dans ma tête à ce moment-là. Il y a eu un peu de... Bah, que j'avais quand même pas non plus envie d'effacer complètement mon vrai prénom, tu vois, parce que je le renie pas du tout. Et en même temps, je me suis dit, ah bah, j'ai quand même réussi quelque chose d'une certaine façon.
Oui.
Donc, j'étais partagée, quoi.
Et ton mari, par exemple, il t'appelle comment ?
Alors, il m'appelle Églantine, mais pas plus tard qu'hier, mais j'étais en séance photo et il m'a appelée Lou. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, j'ai mis mon costume de photographe, alors
il m'a appelée Lou. Okay. Et si on revient du coup sur ton parcours de photographe, donc c'est-à-dire que quand est-ce que tu commences vraiment à faire tes premières missions rémunérées ou tes premières missions où c'est pas juste, tu vois, pour toi
un délire artistique.
Ouais, pour ton plaisir, quoi.
C'est venu assez vite parce que, en fait, comme j'ai commencé à faire des photos de mes potes acteurs et chanteurs et modèles et tout, qui les ont données à leurs agents... et aux bookers dans les agences de mannequins, de pubs et tout, ils sont même venus vers moi en me disant « Ah, putain, c'est beau ça, on aimerait bien que tu fasses des books ou des trucs. » Et donc, assez rapidement, je dirais peut-être, je sais pas, peut-être un an ou deux ans après avoir fait mes tout premiers pas, quoi. Et j'ai commencé avec les agences de comédiens, puis après c'était les attachés de presse, et puis après c'était les magazines, et puis après tout ça s'est mélangé, et puis après c'est allé dans la musique, les labels, etc. Enfin, après ça s'infiltre un peu, un peu partout. Et les expos, c'est venu aussi assez naturellement parce que, comme ma mère est artiste peintre, un jour elle m'a proposé de participer à un festival, et du coup j'ai postulé, ça a marché, et puis voilà, après de galerie en galerie. Je me suis mise à faire...
Oui, tu as à la fois le réseau qui t'a un peu accéléré, en tout cas au début, mais en même temps, le réseau ne fonctionne pas si tu n'as pas non plus de talent, quoi. Donc, à un moment...
L'univers que je propose et que j'aime, il plaît aussi à d'autres gens. Et peut-être parce que j'ai une sensibilité cinématographique aussi. Mmh. Donc, et que quelque part, je dois avoir ces inspirations-là qui parlent aussi aux gens qui font ce métier. Mmh. Donc, Je l'explique comme ça, tant mieux si ça plaît. Mais c'est vrai que contrairement à quand j'étais actrice, on peut dire ça maintenant, j'étais très attachée à ce qu'on pouvait penser de moi. J'étais très attachée à ce que les réalisateurs, les producteurs, les chaînes de télévision soient contents de mon travail et que les gens me fassent un retour en disant « Ah ouais, t'étais bien dans ce film ». C'était important pour moi. Alors que maintenant, bah, je m'en fous complètement. Et si les gens n'aiment pas mes photos ou que je ne suis pas... choisi par telle galerie ou tel magazine, je m'en fous, mais je devrais pas dire ça, mais je m'en fous vraiment. Enfin...
Oui, mais parce que tu as peut-être quand même eu une validation déjà, parce qu'on t'a dit que ton travail était beau, que ça plaisait. Enfin, tu vois, il y a peut-être d'abord aussi ce truc de...
Ouais, j'ai peut-être aussi vieilli. J'ai aussi l'impression que c'est peut-être plus authentique, plus profond, que la photo, c'est quelque chose qui est tellement viscéral que de toute façon, je le fais et je le ferai. Et ça va pas, j'ai pas besoin tellement qu'on me le valide. Et je me sens pas en insécurité avec ça.
Parce que ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça, que tu fais de la photo ?
Bah, ça fait 12 ans.
Okay. Ouais, donc c'est pour ça, t'as un petit peu de recul maintenant, d'expérience parce que tu peux te permettre de t'émanciper un peu de ce que les gens pensent. Mais peut-être qu'au début, je trouve ça moins facile, en tout cas.
Ouais, c'est vrai qu'au début, j'avais peut-être plus besoin qu'on me valide. C'est vrai. Mais en fait, il y a surtout certaines personnes. Si ces personnes-là ne valident pas,
ouais.
Là, ça peut me déstabiliser. c'est surtout mon mari, d'ailleurs. Si lui, il me dit... Mais bon, maintenant, je ne sais pas s'il a vraiment... s'il est hyper objectif, mais... je pense que si lui, dès le départ, m'avait pas dit « vas-y, fonce, c'est super », j'y serais peut-être pas allée.
On ne dit pas assez ça, derrière chaque femme qui ose, il y a quand même souvent un homme.
C'est bien,
ouais.
Hein, ben, c'est cool. Et oui, c'est sûr que... Mais maintenant, de temps en temps, il ne comprend pas trop. Il trouve que c'est trop flou. Je pense que le regard amoureux joue quand même pas mal.
Et j'allais dire, du coup, financièrement, toi, tu n'as pas eu vraiment le problème de la transition.
Alors ça, c'est un point intéressant.
Ah bon ? Parce que j'allais dire, peut-être que tu as eu l'air de switcher quand même de manière assez douce.
Oui, ça fait genre hyper fastoche. Non, mais déjà, alors c'était pas du tout fastoche. Non, en fait, c'était une question que je ne m'étais pas du tout posée au départ, alors que c'est une vraie question, et qui est venue plus tard, où je me suis dit, mais en fait, Je gagne beaucoup moins bien ma vie à 40 qu'à 20. J'ai travaillé très tôt, très vite. Et puis j'ai eu très vite des contrats plutôt sympas. Et comme j'ai fait pas mal de séries télé, j'avais beaucoup de jours. Et en fait, j'ai fait que enchaîner pendant 10 ans, quoi.
C'est quoi les films? D'ailleurs, je t'ai pas demandé les films ou les téléfilms, trucs où les gens auraient pu te voir.
Ah bah, je vais dire que ceux dont je suis vraiment fière, parce que sinon, faut pas les fouiller des trucs trop pourris.
Bah, tu sais, tout le monde en fait, hein. C'est juste que vous êtes plus visible, mais...
Bah, si vous tapez Eglantine Rambeauville, vous allez voir tous ces chefs-d'œuvre du cinéma. Non, disons que les trucs que j'ai vraiment adoré faire, c'est les films d'époque.
Ah,
et,
génial.
Et j'ai eu beaucoup de chance de faire, à la fin de ma carrière... j'ai eu beaucoup de chance d'en faire pas mal pour France Télévisions notamment, mais aussi pour la RAI, parce que j'ai travaillé en Italie et j'avais fait une adaptation de Dickens. Et ça,
du coup, tu tournais en italien ?
Non, alors ça, c'était très bizarre. C'était une espèce de prod sur trois pays. Donc, il y avait des Tchèques, des Italiens et des Français. Et il y avait donc des acteurs tchèques, des acteurs italiens,
ah,
des
ouais
acteurs français.
Okay.
Les acteurs français, enfin, on était deux. Il y avait Sagamore, Stévenin et moi. En français, un acteur français. Et ouais, on était deux, c'est ça. Et puis après, bon, il y avait toute une panoplie d'acteurs italiens magnifiques et les acteurs tchèques, j'avoue, je ne les connaissais pas. Et on jouait chacun dans notre langue.
D'accord.
Donc ça, c'était un drôle de truc.
Très bizarre.
Dans l'histoire, mon père, c'était un acteur tchèque. Et je ne comprenais rien, évidemment. Je savais, quand je devais parler, j'avais la traduction en français,
ouais,
mais on se faisait quand même un peu des petits signes du genre...
Drôle.
Sur Go, tu vois. Donc, mais c'était marrant. Et le résultat est pas mal. C'est assez beau. Mais je ne me suis pas dit que j'allais gagner beaucoup moins d'argent. C'est venu après. Je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi je n'arrive pas à avoir le même rythme qu'avant? Pourquoi? Bah, juste parce que tu n'es pas payé de la même façon quand tu es acteur et quand tu es photographe. Alors, évidemment qu'il y a des photographes qui gagnent excessivement bien leur vie, même beaucoup mieux que des acteurs. Enfin, tout ça. Mais il faut travailler deux ou trois fois plus en tant que photographe pour bien gagner sa vie. En tout cas, pour moi. Et c'est aussi parce que je ne suis pas dans un... Je ne fais pas de la mode, je ne fais pas de la pub, je ne suis pas dans des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent. Je suis dans des secteurs un peu plus intimistes, un peu plus... C'est pas en faisant des expos dans des galeries que... Enfin, après, tout dépend aussi de la notoriété, hein, mais je ne suis pas encore à ce niveau-là, en tout cas.
Et du coup, cette réflexion, tu l'as eue plus tard, de te dire, ah, effectivement, j'ai pas forcément le même rythme de vie qu'avant.
Ouais.
Mais ça t'a pas forcément... Enfin, t'y as pensé, mais ça n'a pas remis en question ton projet.
Non, ça n'a pas
projet.
Remis en question mon projet ni mon choix. Mais en fait, je me disais juste qu'il faudrait que je fasse des choix différents en tant que photographe pour gagner aussi bien ma vie ou à peu près aussi bien ma vie. Et ça, j'étais pas vraiment prête, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'épanouit en tant que photographe, ce n'est pas les endroits où justement on a un rythme de vie très confortable et où il y a vraiment de l'argent. Donc, je n'avais pas envie de faire cette concession de toute façon. Donc, et puis, je ne suis vraiment pas à plaindre. Donc, ça va, je gagne ma vie avec la photo et c'est super. Mais c'est vrai que je n'avais pas envisagé l'aspect financier, alors que c'est sûr que quand on change de métier, il y a ça à prendre en compte, évidemment, quoi. Après, c'est sûr que je vivais pas seule non plus, donc j'ai pu faire cette transition doucement parce que j'avais mon chéri qui gagnait suffisamment pour nous deux et puis pour nous trois, parce qu'après j'ai eu un bébé qui est arrivé pile au moment où en fait j'ai changé de peau, quoi.
Tu t'es pas facilité la tâche quand même.
Pas trop, mais j'ai pas fait exprès.
Oui. Mais c'est souvent, c'est marrant parce que j'ai interviewé une entrepreneuse il n'y a pas longtemps et pareil, elle a eu un enfant au moment de lancer sa boîte.
Ah ouais.
Je trouvais ça marrant, la concordance.
Ah oui, oui.
Et du coup, tu n'as jamais regretté après coup d'avoir abandonné l'acting?
En fait, je ne l'ai pas regretté pour plein de raisons et je l'ai un peu regretté pour d'autres raisons. Et disons que pour la plupart des raisons, je ne l'ai pas regretté. Pour tout ce que ça m'a apporté, pour tout... ce que ça m'a apporté en tant que femme, parce que ça m'a totalement transformée profondément, ou en tout cas, ça, ou peut-être que si ça ne m'a pas transformée, je me suis mieux rencontrée, on va dire. Mais ce qui me manque dans le métier d'actrice, c'est les tournages, l'équipe, quoi. Voilà. Ouais. Que j'ai aussi en shooting, parce que j'ai des petites équipes qui ne sont pas des équipes de tournage avec 70 personnes, c'est beaucoup plus réduit. C'est pas tout à fait, c'est pas la colonie de vacances un peu, quoi, les tournages. Et ça me manque un peu. Et ce qui me manque aussi, c'est quand même de temps en temps d'être au service de quelqu'un. Et de pouvoir juste me laisser driver dans un univers qu'on m'impose et voilà, de me laisser faire. Je suis retournée sur des plateaux et j'ai à nouveau joué alors que ça faisait déjà un moment que j'étais photographe et que j'étais voilà, que c'était devenu ma nouvelle vie. Et j'ai trouvé ça hyper agréable, en fait. De faire ce qu'on me disait. Enfin, tu vois, de ne plus être le chef d'orchestre, je trouvais ça très confortable. J'étais là, je les voyais, tu sais, qui installaient les lumières, mettaient en scène, tout. Et moi, j'avais juste à attendre qu'on dise « action ». Et ça, c'était cool.
Ouais, je comprends, c'est vrai, quand tu es entrepreneur indépendant, tu as toujours ce poids, effectivement, la charge mentale, le truc de, en fait, si tu n'avances pas, ça n'avance pas.
Non. Et puis d'être tout le temps en train de faire des projets, c'est-à-dire que quasiment, bien sûr que j'ai des commandes de temps en temps, on m'appelle, on me dit, ah, telle photo, tel truc, là, pour tel magazine, telle heure, telle. Oui, mais quand même, une grande partie des choses que je fais, c'est moi qui suis décisionnaire de quasiment tout, qui est l'idée du projet, Et en fait, c'est génial, mais c'est aussi hyper fatigant.
Ouais.
Et puis, j'ai personne qui me prend par la main. Je ne suis pas moteur, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et de tout le temps en train de relancer, de montrer mes images, de montrer que j'existe dans ce paysage. Donc, ça, c'est quand même assez fluide et j'ai quand même la chance que ça fonctionne bien, mais je sais que si demain j'ai plus de projet, demain j'ai plus d'inspiration, il va plus se passer grand chose. Donc, en tout cas, il va plus se passer ce qui m'anime vraiment dans ce métier-là. Alors, en tant qu'acteur, c'est pareil. Hein. Enfin, d'une certaine façon, si on vous appelle pas, il se passe pas grand chose. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on est engagé sur un projet, on se laisse driver, on fait des propositions, il faut être il faut bien faire son job, mais on est embarqué en fait, quoi, dans un équipage avec plein d'autres gens sur le bateau, et voilà. Alors que quand on est photographe, on est un peu le capitaine, quoi.
Ouais.
Donc.
Non, mais je comprends. Et t'as beaucoup de gens en fait, plus qu'on ne le pense, qui se sont lancés dans des boulots indépendants et qui un jour reprennent un boulot salarié.
Mmh.
Et même si ce n'est pas forcément vitam aeternam, mais je peux comprendre ce truc de OK, là, je pose mon cerveau pendant 2, 3, 4 ans.
Ouais.
parce que, non, mais c'est vrai, je trouve que ce n'est pas fait non plus pour tout le monde. Et ça veut dire qu'il faut toujours que tu sois à un niveau d'énergie top, comme tu le dis, parce que c'est toi qui es capitaine du bateau et que si à un moment. Ouais, tu ne peux pas te reposer sur quelqu'un pendant un mois ou te dire voilà, c'est un moment un peu moins. Tu vois, j'ai besoin un peu de lâcher. Mais du coup.
En fait, je pense que ça dépend de son ambition, tu vois. Mais c'est vrai que le fait de vivre en famille et d'être à deux, en tout cas sur le plan financier, de temps en temps, oui, j'ai ce luxe-là de pouvoir un peu me relâcher de temps en temps si je veux faire un projet artistique qui va me demander beaucoup de temps et du coup, où je vais devoir accepter moins de commandes et faire. Et gagner moins d'argent. De temps en temps, je peux me le permettre. Mais ça n'a pas toujours été le cas et ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Et ça, c'est vrai que c'est assez... Mais quand même, je suis dans une effervescence de faire avancer un projet. Je ne suis pas... Justement, je ne mets pas mon cerveau sur pause, en fait. Je crois que je le mets jamais sur pause. Mais je n'y arriverai pas à l'avoir sur pause. C'est-à-dire que si j'avais été que actrice, j'aurais toujours eu cette frustration de n'être que actrice.
Ouais.
Je n'arrive pas à faire que ça. Et je me rends compte que ce n'était pas pour moi de faire que ça. Mais de le faire de temps en temps, c'est sympa.
Et j'allais dire, comment tu as géré aussi le regard des autres, notamment au moment de ta bascule? Est-ce que, tu vois, tu as eu des critiques? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ton choix? Et du coup, comment tu as gardé ton cap?
En fait, le truc que j'ai trouvé difficile dans cette période de transition, c'est que j'avais plus l'impression d'être totalement comédienne et j'étais pas encore devenue photographe. Et il y avait ce moment un peu flottant où je gagnais plus d'argent, où ça me posait un peu un problème social aussi, parce que je le sentais au regard de, des autres et de la société, que quand tu ne gagnes pas d'argent, bah, tu ne vaux pas grand-chose. Ce qui est en fait totalement fou et faux, mais c'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti de façon très forte et qui me frustrait. Et en même temps, ça m'a aussi poussée à aller encore plus vite dans ma reconversion, parce que j'avais besoin de retrouver un peu ce statut social de femme active qui travaille. Et il y a quand même une pression sociale par rapport à ça, qui est aussi forte pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'une femme qui ne bosse pas, aujourd'hui en tout cas, elle n'est pas forcément sexy, elle n'est pas totalement épanouie, assumée, tout ça. Et ce moment qui a été quand même un peu galère, où j'avais mis mon appart sur Airbnb pour quand même finir les fins de mois, et puis réussir à bout à bout à pouvoir vivre quand même correctement, mais de ne pas avoir ce statut de femme qui travaille et de gagner de l'argent, ça, c'était vraiment compliqué. Et là, j'ai été quand même assez dérangée par le regard des autres. J'avais pas encore prouvé que j'allais y arriver, quoi, et que je pouvais assumer cette reconversion sans problème, que c'était pas juste un grain de folie, quoi. En fait, je crois que j'ai été bien accompagnée, parce que j'ai pas eu de critiques. J'avais beaucoup d'amis acteurs qui me disaient « Oh, t'es sûre ? T'arrêtes ?» Je crois que j'étais trop animée par ce que je faisais, ça me remplissait tellement, je ressentais un besoin de faire des images tout le temps, et une tellement grande satisfaction. C'est vraiment comme un sentiment, c'est un peu orgasmique, quoi. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais pas tant que ça en réalité. Il y a quelque chose de tellement jouissif, de tellement satisfaisant, qui remplit tellement, que c'est comme quand on tombe amoureux, c'est comme quand on accueille un enfant. Il y a quelque chose de très fort, de profond, de charnel, de viscéral. En fait, j'étais tellement portée par ça que vous pouvez me dire que j'étais folle.
Ouais, ça t'atteignait pas, quoi.
Non.
Ouais, t'étais trop solide sur tes
envies.
J'avais
trop envie d'y aller. Mais vraiment, c'est comme une histoire d'amour. Attends, t'es sûre, ce mec ? Mais ouais. Ah non, moi, je suis tellement heureuse d'avoir... En fait, je suis tellement heureuse aussi d'avoir eu un moment, un peu un creux dans cette carrière d'actrice, parce que si j'avais pas eu un moment comme ça, un peu qui marchait plus aussi bien qu'avant, j'aurais peut-être pas été autant en colère, et donc j'aurais peut-être pas... eu cette révélation de faire autre chose et de m'emmener ailleurs. Et en fait, maintenant, d'avoir fait de la photo, ça a aussi ouvert d'autres portes. En fait, d'avoir ouvert la porte de la créativité, de la création, ça n'a ouvert plusieurs derrière, quoi. Et c'est infini. Et je me dis que je me suis mise à écrire, je me suis mise à dessiner, à peindre. Enfin, je me dis, mais en fait, c'est un fil qui... infini, qui fait que se dérouler, il peut y avoir encore plein d'autres médiums qui s'ouvrent à moi. Donc, je pourrais complètement envisager encore de faire autre chose. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'avant, je pensais que je serais que actrice et que c'est tout. Ce qui est déjà génial. Ouais. Enfin, c'est même merveilleux. C'est merveilleux quand on travaille, en fait. Et puis, c'est un métier qui est très riche aussi, parce qu'on endosse plein de personnages différents. Disons qu'il faut avoir la possibilité de travailler. Et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Alors que la photo, même si on ne bosse pas, enfin, je veux dire, même si on ne nous appelle pas, on peut le pratiquer. Et c'est quand même... faire un monologue tout seul dans sa chambre, c'est assez limite, quoi.
Est-ce que tu as un souvenir de shooting qui t'a particulièrement marqué ?
Il y a eu une fois où je photographiais une actrice qui m'a... En fait, ça m'a marquée parce que ça m'a émue et j'ai dû m'empêcher de pleurer, quoi. Et je me suis dit, elle va me prendre pour une folle. Et c'est parce que je crois que j'ai touché quelque chose en la photographiant que j'avais pas... c'était la première fois que j'ai eu l'impression que c'était pas juste un visage que je photographiais, quoi. Et donc, c'était une séance de portrait. Et je ne suis pas qu'un corps. Tu vois, c'est vrai que c'est pas une plastique, ça paraît hyper évident en fait. Mais le jour où je l'ai compris de façon hyper profonde, ça m'a émue parce que je m'attendais pas à ça. Et c'était cette personne-là, c'était cette fille-là qui avait un truc peut-être un peu, je sais pas, magnétique et hyper charismatique. Et ça m'a énormément touchée. Après, des anecdotes de shooting, il y en a...
Et j'allais dire, est-ce que tu en as un où ça s'est vraiment hyper mal passé, genre un énorme ratage? On ne citera pas de nom.
De ratage, moi, il y a plein de séances photos que je trouve super ratées. Après, non, je n'ose pas parce que c'est des gens connus. Du coup, je me dis, si je commence à balancer. Mais disons que j'ai eu un grand moment de solitude sur un shooting avec Inès Reg. Mais la séance photo n'est pas ratée. Donc, du coup, je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais j'ai eu un moment de solitude à un moment donné où je cherchais une image à faire que je ne trouvais pas, j'arrivais pas, je sais pas, ça ne marchait pas. Je voulais les mettre d'une certaine façon parce qu'elle posait avec son chéri, Kevin. Et puis, le moment, je pense, où vraiment je galère le plus à trouver l'image que je veux, c'est le moment où il y a absolument toute l'équipe, là, il y avait un peu de monde, en même temps, sur le shoot, et tous derrière le retour. Tu vois, et j'entends les mouches voler parce que personne ne fait de commentaires et moi, je cherche et je galère. Et là, je me suis sentie très seule. J'ai eu l'impression que ça avait duré une demi-heure, tu vois. Ça a peut-être duré que 3 minutes. Et puis, je ne sais plus si c'est la costumière ou la maquilleuse qui m'a dit, tiens, et si on faisait ça? Et puis, pouf, après, le truc est reparti. Et là, les gens ont dit, ah oui, cool. Ah oui, oh, c'est beau. Mais je n'étais pas bien. Il y avait le magazine, il y avait toute la prod, tous les gens de l'hôtel. Enfin, c'était très désagréable. Voilà. Et puis pour un autre magazine aussi, ça a été. Mais c'est des trucs. On avait accumulé toutes les galères possibles. C'était le jour où les terrasses réouvraient à Paris. Ils voulaient qu'on shoote sur une terrasse, mais en fait, c'était plein à craquer. Il se trouve qu'en plus, il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et c'était Amel Bent, Camilla Jordana et Vita. Et Amel Bent, elle était dans les embouteillages, la pauvre, elle était arrivée avec 2 heures de retard. Il nous avait donné une suite, mais qui était 1000 fois trop petite, et on se retrouvait avec des équipes où on était tous entassés dans la chambre. Enfin, j'avais aucun recul pour faire. Ah, on accumulait, mais que des galères comme ça, de météo, de timing. Enfin, bon, on s'en est sorti, mais il y a eu beaucoup de Photoshop qui n'a pas été non plus. Hyper agréable à faire derrière.
Non, mais bon, c'est rassurant, tu vois. Ça veut dire que même quand tu vois des résultats hyper stylés, derrière, il y a quand même des expériences où ça se passe pas comme tu as prévu.
Non, pas du tout. Mais c'est ça aussi qui est cool, en fait.
Ça développe ta capacité aussi à rebondir.
Oui, enfin, c'est cool après coup. C'est vrai que sur le moment, tu trouves pas ça cool. Moi, je faisais pas trop la maline.
Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont envie de se lancer dans un... Alors, que ce soit la photo, mais de manière générale, dans une pratique artistique, tu vois, de développer ça comme bascule.
En fait, je crois vraiment que c'est ça. Il faut oser y aller et pas se dire que ça a déjà été fait 1000 fois, qu'on est déjà trop nombreux à faire ces métiers, qu'il faut juste... On est tous uniques et on a tous quelque chose à raconter et... En fait, quand je dis ça, je le dis pour moi aussi parce que ça m'arrive tout le temps de me dire « Ah, mais cette image, on l'a déjà fait 1000 fois, ce texte, je veux dire, j'ai rien inventé. » C'est pas grave, peu importe. Je pense que faut pas se poser trop de questions et oser y aller. Faut mettre son costume, changer de peau, quoi.
Ouais, c'est un très bon conseil, je suis d'accord. Et ça va peut-être être un peu redite, mais j'ai une dernière question pour toi qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer?
Bah, j'ai envie de dire la même chose, en fait. C'est d'y croire, de pas... En fait, c'est aussi de se dire qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut y aller dans ce qu'on a envie de plus profond, quoi. Et pas passer à côté... Je sais pas si il y a des gens qui vont me dire, parce que j'entends la voix de mon mec qui me dit « Oui, bah, c'est facile à dire, hein, c'est pas si simple pour tout le monde. » Mais je crois que quand même, il faut s'offrir cette liberté-là, quoi. Il faut s'offrir cette liberté-là, de se dire, bah, attends, je le fais, je tente, je mets tout en œuvre pour y aller, et pas toujours se trouver des raisons de ne pas y aller. Je vais le faire demain, j'attends d'avoir un peu plus d'argent, j'attends d'avoir une meilleure formation, non mais en fait, c'est bouché, en fait... Il faut faire voler tout ça. Moi, je pense que j'étais inconsciente je l'ai fait sans réfléchir. J'ai pas commencé à mesurer est-ce que je vais gagner mieux ma vie. Est-ce que... Alors, c'est vrai que quelque part, je pouvais me le permettre. Mais je veux croire qu'on peut tous se donner les moyens de s'offrir cette liberté et d'y aller quand même. Je ne sais pas comment, peut-être que ce sera plus compliqué pour d'autres, mais de ne pas se s'imposer de limites à ça. Parce que j'entends parfois des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien, je voudrais changer, je voudrais me reconvertir, mais... » Et en fait, parce que tout ça, il faut au moins essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais au moins essayer, quoi. Se dire « Pendant un an, je mets toutes les chances de mon côté pour y aller. » Pas s'imposer de limites. Mais dans la vie, en général, il faut faire ça.
Ouais, je trouve que c'est un très bon conseil, parce que tu as raison. Enfin, moi, à chaque fois, on m'oppose toujours le frein financier, etc.
Bah, oui.
Souvent aussi, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est plus le frein psychologique. Oui. Tu vois, c'est hyper facile de se réfugier derrière des contraintes hyper pratico-pratiques. Ouais. Et en fait, derrière, c'est juste que tu n'oses pas. En fait, tu as juste foncièrement peur de faire ce truc.
Mais
tu
non,
vois.
C'est normal que ça fasse peur. Mais ça fait peur. C'est un saut dans le vide, c'est vertigineux. Et aussi parce que, c'est marrant parce que j'en parlais avec un de mes amis tout à l'heure, on s'identifie à notre métier. On se forge autour de notre métier. Donc, on s'est collé soi-même, même une étiquette. Donc, au début, moi, j'étais actrice. Alors, une actrice, c'est comme ça, nanana. Et je me suis un peu forgée avec cette identité-là. Et donc, ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait nous-mêmes si on change de métier. C'est toute cette partie-là de moi, elle ne va plus exister. Donc, c'est un deuil à faire. C'est le deuil de quelque chose, d'une pratique, d'un métier qu'on pratiquait, que peut-être qu'on a aimé, etc. Pour ça, parfois, ça peut être cool de faire ce deuil-là. Mais quel que soit le deuil, c'est de toute façon quand même une étape. Et puis, c'est aussi le deuil d'un morceau de nous, d'un peu de nous qu'on fait. Et ça, je pense que y a beaucoup de peur par rapport à ça. Se dire, ça ne m'appartient plus. Ça, je ne suis plus cette personne-là. Ça, c'est quelque chose... Je crois qu'il y a beaucoup de gens, sans forcément en avoir conscience, qui ont peur de ça. De laisser un peu d'eux-mêmes à côté, quoi.
Je n'ai pas pensé à cet angle-là, mais c'est hyper intéressant.
Parce qu'on s'identifie beaucoup. On s'identifie à notre lieu de vie, à notre identité, je veux dire, à notre prénom, à notre... Tu vois, c'est pour ça aussi que d'avoir changé de prénom, c'était aussi... Ça m'a aidée aussi à m'éloigner de la vie d'avant, quoi. J'en prends une autre, je prends une autre peau, quoi. Mais on se met nous-mêmes nos limites par rapport à ça. C'est fou, comme tu vois, on dit souvent, il a la gueule de l'emploi. Mais finalement, si tu prenais une personne et que tu dis, tu parles avec elle pendant des heures, tu sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Si tout d'un coup, elle te dit qu'il est agriculteur ou qu'en fait, il est boulanger ou qu'il est artiste, tu ne vas plus voir la personne de la même façon. Même son visage va un peu changer dans ta perception de la regarder. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pareil pour... je pense que c'est pareil pour toute forme d'identité que tu veux te coller à la peau, quoi. Ça peut même être religieux ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... On se colle soi-même une étiquette, on se met soi-même dans une sorte de communauté, tu vois. Mais en fait, je crois que c'est très libérateur de s'en foutre, de se dire, c'est pas grave, moi, j'appartiens pas à ça, mais je peux y appartenir quand même, et je peux aussi appartenir à autre chose et à tout en même temps. Tu vois, et ça, je pense que si on part de ce principe-là qu'on appartient à tout, à toute chose, je pars dans un truc complètement mystique, là, mais tu vois ce que je veux dire, un peu...
Ouais, bah en fait, c'est d'abord s'autoriser les choses. Et c'est ce qui est hyper dur.
Ouais. Mais de se libérer de là où on s'est enfermé. Tu vois ? Où on nous a enfermé, que ce soit la société, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis. Tu vois, on t'a forgé parfois, on te dit oh, mais toi, tu pourras jamais aller vivre là-bas. Ou toi, tu es sûr que tu pourras faire un métier comme ça, toi ? Toi, moi, mais qu'est-ce que t'en fais, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? On est souvent. Enfermés, nous-mêmes on s'enferme là-dedans, mais les autres nous enferment là-dedans. Et c'est affreusement réducteur, quoi. Alors que je suis persuadée qu'on est tous capables de tout.
Oui, mais ça tient aussi beaucoup à la confiance en toi, je trouve.
Ouais, mais je pense que c'est beaucoup nos sociétés qui nous enferment aussi là-dedans.
Ouais, mais c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, une fois par semaine, on fait un petit déj de femmes qui viennent juste
pour s'inspirer ou pour échanger sur leurs envies de changement de vie. Et ce matin, tous les jeudis matin, tu vois. Et ce matin, il y avait une femme qui disait, qui avait dans la 45 ans, et qui disait, oh, mais moi, j'ai envie de me faire licencier, j'ai plein d'idées, j'ai ça, mais c'est trop farfelu, tu vois. Et en fait, elle-même se disait, en fait, j'ose même pas toucher du doit toutes les envies, parce qu'on disait, mais t'es sûre que t'as pas d'envie, parce qu'elle dit, je sais pas ce que je vais faire d'autre. Et en fait, c'est qu'elle avait des envies, mais elle se les autorisait.
Enfin, ouais, elle arrivait même pas à les formuler.
Elle se censurait, ouais, exactement, ouais. Tu vois, ça sortait même pas de sa bouche.
Ouais, c'est dingue.
Mm-mm. Et ça rejoint vraiment ce que tu dis, du coup, c'est marrant. Ça.
Ouais, parce qu'en fait, on s'auto-censure. De là à même pas réussir à le formuler, c'est... Mais je vois très bien, hein, parce que je sais que ça m'arrive aussi. Le nombre de fois, on m'a dit, mais alors, t'as envie de quoi, vraiment? Je dis du bout des lèvres. Non, mais t'as envie de quoi, vraiment? Tu vois, c'est vachement... Je me souviens qu'un de mes profs de théâtre nous avait demandé ça un jour. Vous attendez quoi de ce métier? Vous voulez faire quoi? Et... À cette époque, j'étais peut-être un peu insolente et tout, mais en même temps, j'avais été assez franche, quoi. Je dis, ben moi, j'ai envie que ça cartonne, quoi. J'ai vraiment envie de briller. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était mon envie profonde. Je veux aller à Cannes, je veux aller au César, je veux que ça marche, quoi. Je veux vraiment. Parce qu'il y en avait qui disaient, j'ai envie de vivre de mon métier. Mais peut-être que c'était vrai. Mais je me disais, mais en fait, il faut oser dire de quoi tu as vraiment envie. Bon, c'est pas pour ça que ça a marché pour moi en tant qu'actrice. Mais mon chemin, il était différent, en fait. Et j'aimerais bien m'autoriser encore, à aller encore plus loin. Et tu vois, parce que je pense qu'on n'est jamais totalement libéré de tout ce qu'on s'est soi-même imposé.
C'est très vrai. Bah, écoute, on finira là-dessus.
Ouais.
Si les gens veulent en savoir plus sur toi, surtout que comme c'est hyper visuel ce que tu fais, je pense que c'est hyper important de le partager. C'est ton compte Insta, Sarda.
Ouais. J'ai pas d'autres réseaux.
Ok, parfait.
Après, j'ai des expos. Là, je vais en faire deux en 2024. Et puis, après, il y en aura d'autres. Donc, il faut venir aux expos.
Trop cool. Et tu sais déjà où ça va être?
Ouais, il y en a une qui est prévue pour le musée Rosa Bonheur.
Ok.
Et l'autre, normalement, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais on a au Théâtre de la Renaissance à Paris.
On reste alerte sur tes actus.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.